Vous êtes peut-être sur son radar. Tranchant, juste, à l'affût. C'est l'heure juste. Avec Myriam Segal.
Bon midi, Myriam.
Allô, comment vas-tu?
Ben, ça va super bien. On est sous les nuages, mais il y a une petite percée de soleil là, qui s'en vient tranquillement pas vite. Un automne qui est, ma foi, assez bien là, pour les activités extérieures. Pour notre chronique cette semaine, pouce en l'air, pouce en bas, c'est aléatoire. On commence aujourd'hui avec le pouce en bas.
Oui, on va commencer par ça. Écoute, je voulais te parler de Extinction Rébellion, ces paniqués du climat qui ont décidé qu'écœurer le peuple, ça allait passer le message. Ça passe zéro message qu'ils ont fait. Ça ne passe aucun message. Ça fait juste saboter leur propre cause. Tu ne peux pas convaincre les gens en les écœurant. Tu ne convaincs pas les gens en les écœurant. Tu dois les convaincre en amenant des arguments, en expliquant des choses, en acceptant de discuter. Or, ces gens-là ne discutent pas. Moi, en fin de semaine, j'ai voulu jaser avec un des porte-parole d'Extinction Rébellion, peu importe lequel, là, bon. Et ils nous ont répondu, nous n'avons personne de formé pour ce type d'entrevue. Pardon? Ils sont en train de bloquer des routes, de bloquer des ponts, de faire des manifestations au milieu de nulle part, de créer des embouteillages, très mauvais d'ailleurs pour le gaz à effet de serre, là. Et ils n'ont personne de formé pour discuter.
Normalement, avec tes convictions, t'es supposé être capable de répondre s'ils sont si profondes que ça.
Ouais, il suffit pas d'être sincèrement convaincu. Encore faut-il être capable d'expliquer pourquoi on en est convaincu. J'ai l'impression parfois qu'on a affaire à une guerre de religion. Dans ma religion, nous sommes en train d'exterminer la planète. Enfin, d'exterminer l'humanité. La planète, on s'en ficherait si l'humanité était pas dessus, là. Mmh. Mais... D'accord, explique-moi pourquoi, explique-moi comment, explique-moi ce que je dois faire, parce que là, ils sont sur toutes les tribunes en disant « il faut en faire plus, il faut faire quelque chose, ok? » Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous demandez à mes gouvernements de faire? Tu sais, par exemple, moi, je serais très contente que le gouvernement passe une loi disant que tout produit qui est emballé de manière à dépenser plus que 10% du volume du produit lui-même en emballage soit mis à l'amende. Moi, le suremballage, ça me scandalise. D'accord, mais propose-moi des choses, dis-moi quoi faire. Là, ce que ces gens-là font, à tour de bras, et ils font de la désinformation, notamment en ville, le sondage que vous avez révélé ce matin vient démontrer à quel point le fossé est profond entre la grande ville, Montréal pour pas en nommer, et les régions. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont décidé que l'oléoduc, dans lequel il devait y avoir du pétrole, là, je parle pas encore de GNL, là, l'oléoduc, ça a été rejeté massivement par la population du Québec. Quand? Comment? Je viens de t'envoyer, Simon, le seul sondage que je connaisse au sujet du pipeline. C'est l'Institut économique de Montréal avec la firme Léger. Léger, c'est pas particulièrement à droite, OK?
Non, effectivement. Bon.
Et la firme Léger a déterminé que la majorité des Québécois préfèrent le pétrole de l'Ouest au pétrole de l'Arabie Saoudite, par exemple, qui est un pays qui ne traite pas particulièrement bien certaines de ses citoyennes. Et d'autre part, que la majorité des Québécois pensent que la façon la plus écologique et la plus correcte de transporter le pétrole, c'est le pipeline. Alors pendant ce temps-là, on a des économistes du haut de leur chaire montréalaise qui nous disent « C'est un scandale, le pipeline, ça a été rejeté massivement. » Non, François Legault a dit que c'était du pétrole sale. J'ai pas compris sa position. Mais ce n'est pas vrai que le Québec l'a rejeté. Le Québec n'a jamais été consulté. Rappelle-toi, là, il y avait eu une audience publique à Montréal sabotée par des extrémistes du climat, là. Puis du coup, les audiences publiques sont mortes. Ils ne sont jamais rendus ailleurs.
Souvent, j'ai l'impression, justement, que le consensus qu'ils évoquent provient d'une couple de bien-pensants qui se prononcent en faveur d'une certaine clique. Puis à ce moment-là, on utilise seulement leurs arguments. Tu parlais de l'Institut économique de Montréal. Tu verras jamais des personnes à gauche dire que c'est un sondage crédible, l'Institut économique de Montréal.
Ben, faites-en un qui va être crédible. Mais actuellement, le seul que je trouve, là, je chercherai, là, le seul que je trouve, c'est celui-là. C'est le seul sondage scientifique qu'on ait sur la question du pipeline. Puis, il est en accord avec le pipeline. Les Québécois seraient majoritairement en accord avec le pipeline. L'autre problème, c'est GNL. C'est que vous êtes en train de démontrer que les gens de votre région qui ont entendu parler du projet, qui se sont fait expliquer le projet, sont majoritairement pour le projet de GNL. À Montréal, c'est exactement le contraire. D'ailleurs, il y a un phénomène très rigolo à Montréal. Ils sont moins informés. Ceux qui se disent informés du projet sont très minoritaires. OK? Attends un peu, il faut que je retrouve le chiffre, là. Il y en a seulement 18 % qui s'estiment bien informés du projet. Mais il y en a 39 % qui sont contre.
Puis à Montréal, c'est encore pire. 44 % seulement à Montréal qui sont contre.
Alors, si tu es mal informé d'un projet, comment fais-tu pour être contre? Moi, je comprends très bien le 38 % qui dit « je ne sais pas ». Mais comment fais-tu pour être contre quelque chose sur lequel tu reconnais toi-même que tu n'es pas bien informé?
Est-ce que ça se peut que le seul mot « usine », il finisse par être contre?
Je pense que le seul mot « pétrole »,« énergie », qui ne soit pas de l'hydroélectricité ou de l'éolien ou du solaire, ils sont allergiques. Mais le fait est que même Gabriel Nadeau-Dubois reconnaît que jusqu'en 2050, on va avoir besoin de pétrole. Et si tu veux transporter du gaz naturel ou du pétrole, la façon la plus écologique, la plus sécuritaire de le faire, ce sont des pipelines.
C'est
la plus écologique,
dis...
c'est la seule façon de ne pas brûler du pétrole pour transporter du pétrole.
Parce qu'en écouter plusieurs, là tu parles de 2050, mais en écouter plusieurs, là, le pétrole, on n'aura plus besoin dans 5-10 ans. Là. Je pense que
non,
c'est...
Non. Écoute, Simon, je viens d'acheter une voiture qui est partiellement électrique.
OK.
C'est impossible, à part Tesla, mais même à ça, avoir une Tesla au Saguenay, là, c'est un bel effort, il faut pas te déplacer trop loin, t'as pas tant de superchargeurs que ça, puis il faut avoir du temps, là. La voiture électrique n'est pas encore au point pour nous, pour nos besoins à nous. Les gens qui ont des voitures électriques, moi j'en connais qui ont des voitures toutes électriques. Bon, il y a Sylvain Godreau, évidemment, qui en parle beaucoup, là, mais ouais. La plupart des autres personnes qui ont une voiture électrique, c'est la deuxième voiture de la famille. C'est pas la première. Comprends-tu? La voiture électrique, actuellement, elle te permet effectivement de faire des déplacements. Moi, quand je circule en ville, là, je paye zéro gaz. Je suis sur l'électricité tout le temps, okay. En ville. OK? Je paye zéro pétrole, je suis capable de me brancher uniquement dans une prise 110 volts pendant 8 heures, donc pendant que je fais dodo, la voiture se charge, le lendemain, je peux circuler en ville tant que je veux sans dépenser de pétrole. Cependant, aussitôt que je dois faire de la route, à moins de m'arrêter toutes les 3 heures pendant 3-4 heures, je ne peux pas. Puis la réalité de notre territoire, la réalité de notre climat, qui demande de la climatisation l'été et du chauffage l'hiver, fait en sorte qu'actuellement, à un prix raisonnable, ce n'est pas tout à fait accessible.
Et on parle même pas encore d'avoir accès à une traction intégrale électrique, parce qu'au Saguenay, on a de la neige et beaucoup de neige.
Ouais. Ben, tu vois, moi, j'ai une traction intégrale,
okay.
mais j'ai 40 km d'autonomie. Là.
Ouais, c'est ça, là.
Et je suis sur l'hybride le reste du temps parce que j'ai pas le choix. Alors, ce n'est pas vrai qu'on va s'en passer. Et même si on s'en passait sur le plan des transports, il restera encore tous les trucs de plastique que tu as.
Ah ben oui.
Par exemple, ton iPhone, ta TV, en fait, tous ces petits outils qui nous servent, là. Il y a encore plein de plastique autour de nous qui nécessitent des produits pétroliers. Le pétrole ne va pas disparaître. On peut essayer d'en réduire l'utilisation pour le transport. Et une des façons d'en réduire l'utilisation, c'est de le transporter par pipeline ou par gazoduc. C'est aussi bête que ça. Et je suis assez scandalisé de voir qu'à Montréal, on est contre tout. On est toujours contre tout ce qui apporte tout en région. Tu vois, les grimpeurs du pont Jacques-Cartier, là, ils sont fâchés d'abord parce que chez vous, on fait GNL, alors qu'ils admettent eux-mêmes être très mal renseignés sur le projet. Et d'autre part, parce que à Québec, on va faire le troisième lien. Alors là, ils ont décidé que le troisième lien est une horreur anti-environnementale. Ils pourraient-tu venir nous parler? Peut-être qu'on va leur expliquer pourquoi on pense que le troisième lien est une bonne chose, même sur le plan environnemental?
Ton pouce en l'air maintenant, Myriam.
Mon pouce en l'air va à un monsieur qui vient de dépenser 66 000 $ 66 000 $ de frais judiciaires contre le directeur général des élections du Québec. Le pauvre gars, il a été sollicité par la CAQ pour un souper avec François Legault. Il a donné 100 piastres pour aller souper avec François Legault. Tu sais, bon. Quelques mois plus tard, on l'a sollicité pour un cocktail bénéfice. Il a donné 100 piastres pour le cocktail bénéfice, puis il est allé au cocktail. Et là, le directeur général des élections dit « Vous avez dépassé votre plafond de 100 $ de dons. » Lui, il dit, ben, moi, je savais pas que le cocktail puis le repas, c'était entièrement des dons. Là, moi, je pensais qu'il y avait une partie qui... Comprends-tu?
Oh, ouais,
une partie qui paye le cocktail, une partie qui paye le repas.
Oh, ouais.
Alors, là, le directeur général des élections dit, non, non, vous avez donné 200 $, méchant citoyen. Par conséquent, vous allez perdre votre droit de vote pendant 5 ans. Votre compagnie n'aura plus le droit de faire des affaires avec le gouvernement. Et vous-même, vous allez payer une amende de 7 800 $. C'est ça, la punition. Je trouve ça du délire total. L'objectif de cette loi sévère pour empêcher qu'on défonce le sommet des dons, c'était pour empêcher que, par exemple, une compagnie d'ingénieurs dise à ses 600 employés, vous allez chacun donner 100 $, puis moi, je vais vous rembourser par votre compte de dépenses clandestinement.
Et ça s'est fait?
Ça s'est fait pendant des années, à tous les niveaux, municipal, provincial, fédéral. Ça s'est fait durant des années. Et c'est pour arrêter ça qu'on a prévu des lois sévères. Pas pour dire à un monsieur de 79 ans, « Hey, toi là, t'as osé payer 2 cocktails bénéfices? » Comprends-tu qu'on est en train de... on visa le noir et on est en train de tuer le blanc. C'est complètement à l'envers de l'objectif même de la loi. L'objectif de la loi, c'est pas de fesser le petit citoyen, c'était d'empêcher les grands requins de financer clandestinement des campagnes électorales. Lui, il est tellement pas clandestin que son double don figure sur la liste.
Ça n'est pas caché.
D'ailleurs, si la CAQ avait été fine, là, ils auraient un fichier Excel avec la liste de leur donateur, puis ils l'auraient appelé en disant, « Monsieur Maheu, on ne peut pas accepter votre deuxième don, là. Excusez-moi, erreur du pitcher. »
Est-ce que tu penses justement que ce sera, avec cette histoire-là, que ce sera dorénavant plus détaillé, exemple, si vous venez à ce souper-là, oubliez ça pour l'année, après ça, c'est terminé, ou encore, oui. Telle partie, c'est le souper, telle partie, c'est le...
Écoute, le pauvre type, là, il est rendu à 66 000 $ d'avocat pour ne pas payer 7 800 $ d'amende et pour ne pas être traité comme un criminel parce qu'il s'est juste impliqué un peu dans la vie politique. C'est du délire. Le directeur général des élections n'est pas raisonnable. Qu'on ait donné à ce gars-là un 200 $ d'amende en disant, regarde, on va en profiter pour publiciser le fait que quand vous allez un cocktail bénéfice, ça fait partie des dons, etc. On va obliger les partis à prévenir les citoyens qui donnent trop. Tu sais, on va, au lieu de faire ça, puis d'éduquer les gens à la vie politique, le directeur général des élections les écœure de la vie politique. Ça nous écœure de voir qu'un homme de 79 ans est en train de brûler l'héritage de ses enfants pour essayer de garder sa bonne réputation envers et contre une loi qui est administrée tout croche. Puis tu sais, Pierre-Carl Péladeau est dans le même trouble avec le directeur général des élections. Là. Sauf que lui, il a les moyens. Là.
Ouais.
Ben lui, après sa campagne à chefferie, il avait des dettes. Puis il a quitté la vie politique plus vite qu'il pensait. Donc, il a recueilli moins de dons qu'il ne le pensait. Fait que là, il avait le choix. Ou bien il laissait derrière lui des créanciers non payés. Ce qui est assez salaud, d'ailleurs. Quand t'es millionnaire, c'est assez salaud de laisser derrière toi des créanciers non payés. Ou bien il remboursait lui-même les créanciers. C'est ce qu'il a fait. Du coup, le directeur général des élections dit « Ha ha! Toi, là, tu viens de financer illégalement la politique. Par conséquent, non seulement toi, tu vas perdre ton droit de vote, toi, tu vas être mis à l'amende, mais tes compagnies ne pourront pas faire affaire avec le gouvernement pendant 5 ans. Or, la question, c'est est-ce qu'une annonce dans le Journal de Québec, ça fait partie des compagnies de Pierre Carl?
Ben, théoriquement, ça devrait.
Ce qui voudrait dire qu'on va mettre à mal une entreprise médiatique qui, elle, s'en tire pas trop mal dans le contexte.
Effectivement, puis tu sais, on pense pas qu'en sortant de la vie politique, Pierre-Carl Péladeau va recommencer à faire des soupers spaghettis pour rembourser sa dette. Alors,
C'est sûr que la leçon à retenir, c'est que les politiciens ne devraient pas dépenser l'argent qu'ils n'ont pas déjà recueilli. C'est ça la leçon, OK? Et j'ai moins pitié de Pierre-Carl que de M. Maheu. Dans le cas de M. Maheu, il va aller jusqu'en Cour suprême, le monsieur. Il va brûler l'héritage de ses enfants. Et au bout du compte, ce qu'il dit, c'est est-ce que c'est raisonnable de me limiter à 100 $ comme contribution à une caisse électorale. Il a de bonnes chances, s'il se rend jusque-là, de convaincre la Cour suprême que la liberté d'expression en a pris pour son rhume avec ces règles-là. Tout simplement parce qu'on n'a pas été capable d'enquêter et de coffrer les salauds qui trichaient honteusement dans les campagnes électorales. Moi, il a toute mon admiration, ce monsieur Maheu, parce qu'il fait le travail qu'on aurait dû faire depuis longtemps.
Merci beaucoup, Myriam.
Salut.
À la semaine prochaine, Myriam Segal pour sa chronique Pouce en l'air, pouce en bas du mardi.